Vous écoutez
RMC.
RMC, midi 15h.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
C'est la dernière partie de ce best-of d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h. Et au programme de cette dernière heure, les boomers ont-ils ruiné la France? Maltraitance dans les EHPAD? A-t-on abandonné nos seniors? Et puis enfin, stationnement, faut-il faire payer les deux roues? Le best-of d'Estelle Midi, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite à la polémique du jour dans Estelle Midi. Elle est autour de la sortie du livre de François de Closet, La parenthèse boomer chez Fayard. Selon François de Closet, les plus de 60 ans ont ruiné notre pouvoir d'achat et nous obligent à retarder l'âge de départ à la retraite de la population active. Aujourd'hui, n'ont pas et non plus été très sympas pour la planète, ces boomers. Autant dire, Rémi, que... les plus de 60 ans ont assez peu apprécié.
Et notamment parmi les lecteurs du magazine L'Express, où le livre a été présenté en avant-première, l'un des abonnés né en 1949 écrit notamment « Oui, je suis un baby-boomer, sûrement le fruit de la requête du général de Gaulle qui, en 1945, avait appelé les jeunes couples français à faire 12 millions de bébés en 10 ans. J'ai connu les classes surchargées dans le secondaire. Alors que dans les classes préparatoires, nous étions plus de 50 élèves, les concours étaient vraiment des concours. Et de conclure qu'après 45 années de vie professionnelle, il a versé à l'État plus d'un tiers de ses revenus. Un autre lecteur, né en 1947, rappelle lui... ces 16 mois de service militaire, alors qu'un septuagénaire rappelle que malgré la prétendue exploitation des richesses par les baby-boomers exploiteurs, ces années ont permis malgré tout de développer en France la recherche, l'Europe, l'éducation du plus grand nombre et un système de garantie sociale que, paraît-il, le monde entier nous envie. Ne nous remerciez pas. Un exemple parmi d'autres, reste que certaines données assénées par François de Closet font mouche. Quelqu'un né en 1950, entre tout ce qu'il a payé pour sa retraite, les cotisations, et tout ce qu'il a touché comme pension une fois à la retraite, aura touché deux fois plus qu'il n'a payé, dit François de Closet.
Nous, c'est l'inverse.
Dans trois quarts des cas, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, les retraités sont propriétaires à l'heure actuelle, ce qui fait qu'ils n'ont plus de loyer à payer, avec au final ce constat fait par l'auteur, chez les moins de 30 ans, il y a 20% de pauvres, chez les plus de 75 ans, 7%. Les pauvres en France, aujourd'hui, ce sont les jeunes, pas les vieux.
Alors, les boomers ont-ils ruiné la France? Je vais commencer avec vous qui êtes le plus vieux, Perico, et donc le plus à même de défendre cette catégorie de population.
Je sais si Julien aurait une réponse plus pertinente que moi.
Il la donnera après.
Ils en ont bien profité. Va-t-on leur jeter la pierre pour autant? Ils ont bénéficié du plein emploi, du crédit facile, de l'accès à la propriété.
Enfin, vous pouvez dire nous, parce que vous êtes un boomer quand même, Perico.
Oui, mais je suis pas dans cette catégorie-là.
Ah bon?
Mais j'ai quand même profité de la société, il n'y a aucun problème. Alors, je ne me plains pas. Je parle vraiment des boomers qui ont... C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je reconnais qu'il y a eu des abus. Eux, ils sont furieux, il y a un conflit de génération très violent. Et les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes facilités, qui n'ont pas accès à autant de potentialités commerciales, eux, ils ont été les vrais, c'est la première vraie génération de consumérisme. Ils ont consommé, ils se sont gavés. Alors, ils ont bossé, attention. Peut-être plus qu'aujourd'hui, on ne bosse. Ils ont mérité, ils ont peiné.
Ils sont partis plutôt à la retraite.
Alors, en plus, et aujourd'hui, eux, qui touchent une retraite très confortable grâce aux jeunes actifs d'aujourd'hui, ils sont tout à fait hostiles à une réforme des retraites. Bien sûr, évidemment.
Parce que la valeur travail, c'est important.
Alors, attention, le baby-boom, c'est lié à un phénomène qui s'appelle les 30 Glorieuses. Et je voudrais rétablir sous l'autorité de Julien Damon une vérité. Les 30 Glorieuses, c'est pas forcément... j'allais dire, une opulence, une prospérité naturelle de la France, c'est le plan Marshall. Les milliards de dollars jetés par les États-Unis dans l'économie européenne nous a donné l'illusion que nous avions 30 glorieuses. C'était de l'oxygène artificiel. Aujourd'hui, c'est terminé. Et on en revient aujourd'hui à l'économie normale que l'Europe occidentale aurait dû connaître, c'est-à-dire avec des précarités, des difficultés. Pour autant, il y a une génération qui s'est gavée, ils en ont profité. Ils ont fait 68 en plus, ce qui est d'une hypocrisie totale. Sous les pavés, la plage, il était interdit. Aujourd'hui, c'est les plus grands conservateurs. Et le macronisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on presse. Ce sont des conservateurs nés. C'est la chanson de Brassens, vous vous souvenez, chez la Montalan, les trois notaires, voilà. Cette caste, aujourd'hui, elle tient le pactole, elle a le magot, elle s'est goinfrée, elle s'est gavée, elle veut pas que ça bouge. C'est le cœur de l'électorat conservateur, c'est les gens qui ont leur madeleine. Et puis, de chaque côté de l'omelette, vous avez les extrêmes. Alors, à gauche, les gens qui hurlent, qui sont pas contents, dans lesquels il y a beaucoup de jeunes. Voilà la réalité. Et ils tiennent le pactole, ils vont pas le lâcher. Ils sont devenus aigris et méchants. On les voit encore sur les plateaux de télé. peinturlurés, gommés, enfin voilà, des caricatures d'eux-mêmes. Voilà, c'est la France qui nous conduit à la fracture sociale et au chaos. Elle est au pouvoir, elle va s'accrocher, mais on l'en délogera quand même.
Mais c'est une pièce de théâtre, mais complètement.
Non mais ils sont épouvantables, ils sont ignobles quand on les voit. Ils sont contents d'eux, en plus ils sont là, ils vous donnent des
sons. Mais enfin Perico, excusez-moi, mais vous êtes le seul boomer sur ce plateau.
Mais c'est pour ça que je les connais par cœur, je suis d'entre eux, vous voyez. Ils sont là, c'est la chanson de Brel, je ne vais pas faire d'allusion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ils sont toujours du côté du pouvoir en place.
Les boomers, ils sont toujours aussi longs en plateau ou pas?
Oui, oui, et ils prennent toute la parole.
C'est
hyper long.
Ils sont bien pensants, voilà, j'ai dit ce que je veux
dire. Julien Damon, Perico dit, ils ont tout l'argent, est-ce qu'il faut qu'ils lâchent l'argent, les boomers? Qu'ils en donnent un peu aux
autres? Rendez l'argent, les boomers.
La cassette. Bon, je pense en effet qu'il faudrait rééquilibrer le système de protection sociale qu'ils ont contribué à mettre en place et dont ils bénéficient disproportionnellement. En français plus clair, ils bénéficient aujourd'hui d'un système de retraite dont aucune génération ailleurs au monde a pu bénéficier et dont probablement plus personne ne pourra bénéficier avec autant d'intensité que eux. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même pondérer la thèse bien amenée par Perico de baby de boomer qui aurait vécu une période absolument formidable, heureuse, même s'il la nuançait déjà.
Parce ils que ont eu les 4 P, prospérité, plein emploi, ouais. Progrès, paix.
Alors, paix, ils ont eu... Alors c'est une perle qu'on enfile. Ils ont eu la guerre d'Indochine et ils ont eu la guerre d'Algérie. Prospérité à la fin des 30 Glorieuses, ils ont eu le début du chômage de masse, ok, oui. Prospérité jusqu'en 1960. En 1970, 25% des logements en France n'avaient ni toilettes ni douche. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui vivaient dans des bidonvilles. Non mais les 30 Glorieuses,
on parle c'est pas d'eux. Les loyers de 48, ils sont goinfrés au loyer de 48.
Quand la moyenne dérange, on ne l'utilise pas. Oui, c'est et quand la moyenne est ce qui nous convient, on l'utilise. Globalement, la période des 30 Glorieuses a été une période heureuse, de progrès, de prospérité. Pas pour tout le monde. Voilà. Après, il y a cette période qu'on a baptisée des 30 piteuses, et on l'a baptisée ainsi il y a 10 ans, donc ça fait maintenant 40 piteuses. Et les 40 piteuses,
c'est super,
nous
45
sommes
ans,
toujours
merci.
Dedans. Bah oui, parfait. Ouais, moi, j'en ai un tout petit peu plus, un chouïa plus. Mais en
ils ont eu la libération sexuelle, 71, ils ont eu plein de choses quand même.
Oui, c'est vrai, certains considèrent qu'à l'époque, on se mariait. Le sida, c'est un peu plus tard quand même, c'est les années 80, donc c'est vraiment les boomers qui étaient ils encore verts, là, quand ceux qui étaient nés en 1945. Non, mais je pense qu'il faut nuancer, parce que sinon, en plus, ça fait des bagarres de génération. C'est pas vrai, nous, on bossait, puis les jeunes foutent rien, etc. Il faut regarder non pas les réalités sociologiques, mais il faut regarder les comptes sociaux. Et dans les comptes sociaux, en effet, c'est une catastrophe. Là, je vais être comme Perico. Vous avez 80% de nos dépenses sociales qui sont pour les boomers. Vous avez la moitié des dépenses sociales.
On va pas
les
payer plus pour
non plus. Ils ont cotisé pour cela. Donc il n'y a rien à dire en la matière.
Je vous rappelle qu'on s'est confiné pour eux. Hein.
Alors ça, c'est un autre argument. Et François Pleuzet, dans son précédent opus, ou dans ses précédentes déclarations, évoquait cela en disant qu'on était en train de protéger les vieux, cette génération inoxydable, et qu'on mettait les jeunes dans la misère. C'est un rien exagéré, mais quand on dit que c'est exagéré, ça veut dire aussi que ça repose sur un fond de vérité.
Alors on sera avec François de Closet justement dans un instant. Laure Clausier, je vous garde juste pour après, parce que nous avons José. José qui a 65 ans, qui est donc un boueur et qui nous appelle de Fréjus. Bonjour José.
Oui, bonjour Estelle.
Merci d'être avec nous sur RMC. Je vous sens agacé, José.
Pas agacé, mais j'ai déjà entendu une interview de François Clauset une fois et il m'a fait sortir de mes gonds un peu là.
Ah. Et parce moi que j'aime bien.
Quand vous avez 16 ans et que vous êtes dans la filière donc qu'on appelait technique à l'époque parce que vous étiez bon à rien, on vous faisait travailler de suite. Moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans. J'ai cotisé pendant 45 ans. Si on voulait quelque chose, il fallait se le payer. J'étais issu d'une famille nombreuse, donc j'avais pas trop le choix. Et c'était un peu système D, machin. Donc moi, j'ai juste le sentiment d'avoir cotisé pendant 45 ans. On me dit qu'il y avait le plein emploi, mais il y avait le plein emploi parce qu'on bossait, quoi. Si on n'avait pas voulu bosser, il n'y aurait pas eu plein emploi, quoi.
Oui, non, mais factuellement, c'est vrai. Mais José, aujourd'hui, vous avez quel âge, José, aujourd'hui?
Alors, j'ai 65 ans.
Et vous êtes retraité, José? Bah oui.
Oui, je suis retraité. Je m'ennuie un petit peu, mais je vais retravailler un petit peu.
Il faut bosser, voilà.
Pour m'occuper. Hein, voilà, cet été, je vais rebosser un petit peu comme serveur, tiens, en restaurant. Justement, il y en a
bravo,
plus.
José, bravo, José, bravo.
Bah, bravo, voilà, José.
Et il n'y a pas de problème.
Moi, vous n'êtes pas un boomer, vous n'êtes pas un vrai boomer. Vous êtes un type bien.
Je ne sais pas.
Dis encore.
Vous êtes un honnête citoyen français.
Ouais, quand je suis arrivé au bout de mes 45 ans à la retraite, malheureusement, c'était pour un petit problème de santé, donc ça prouve que j'étais un peu sur les rotules. Maintenant, je me ressens bien, donc je vais rebosser. Et puis, je dois rien à notre chère jeunesse qui ma foi, les aides. Je sais pas ce que c'est les aides. J'ai entendu parler d'aides des fois, d'APL, de machin. Je n'ai jamais eu moi.
Ah, ça c'est vrai. Non mais ça vous avez raison, José. Non mais ça. Alors, vous touchez du doigt. Effectivement, on n'en a pas encore parlé, mais on n'a jamais les jeunes, même s'ils sont plus pauvres, Julien Damon, mais ils n'ont jamais été aussi aidés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, effectivement, mes parents ne touchaient pas les APL. Ils n'en avaient peut-être pas besoin. Mais enfin bon, je veux dire,
l'immobilier n'avait pas le même prix.
Les aides de logement, c'est
pas enfin, les taux immobiliers.
Les aides en général.
Les taux étaient à 14. Donc,
mais l'accès était facile. Mais moi, je voudrais quand même dire deux choses.
Aides de logement, ça date de 48, la première.
La première, c'est que c'est trop facile de réécrire l'histoire dès maintenant et de dire, ah, ils en ont bien profité, c'est sérieux. On y aurait été, on aurait fait la même chose. Moi, je trouve ça trop facile de réécrire l'histoire avec une version. Mais non, mais c'est trop facile de dire, ils ont mal fait, ils n'ont pas pensé à la planète. Enfin, quand tu es dans un corps social et que tu penses différemment, c'est, c'est trop facile de regarder aujourd'hui et de les juger. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas que des choses super à être boomer. Le poulet aux hormones, la réalisation uniquement à travers le travail.
Ils ne le savaient pas, ils se sont rendus compte après. Donc,
attends, que du plastique partout, ta réalisation personnelle.
Excusez-moi, mais
c'était
mais
avoir un corps. Mais c'était un progrès, le plastique.
Mais après, du plastique partout, mais ils étaient contents, nos parents, du plastique.
Ils en ont bouffé du plastique, ils en ont bouffé aussi beaucoup du plastique.
C'était mauvais.
Mais alors,
c'est pas comme ça que c'était mieux. Tupperware chez toi, tu le regardais comme c'était la télé.
Aujourd'hui, t'es en train de te
pas de limitation de vitesse, pas de radar.
Mais oui,
Mais
moi, ça me fait pas envie du tout, cette société-là. La clope et tout ce que
mais
tu veux
te dire. Envie.
Mais par exemple, moi, le fait que ça soit, c'était une société qui se réalisait uniquement à travers le travail, à travers la consommation, et ben ça ne me fait pas envie.
Ah bah c'est marrant, se réaliser vous bossez 50 heures par semaine.
Oui, mais je veux dire que globalement, tu n'existes que par ton travail, par rien d'autre, et en plus, une société terriblement sexiste qui ne laissait pas de place aux femmes. Donc franchement, cette génération de boomers, je me dis pas, tiens, ça avait l'air vachement bien d'être dans les années 50. Ah bah pas moi.
Ah bon?
Ah bah non. Je suis bien plus contente de me poser des questions sur où est-ce que je vis, quel est mon impact, qu'est-ce que je consomme, est-ce que mon travail a un impact, est-ce que mes enfants sont heureux. Oui, je trouve ça vachement plus intéressant.
Moi, je préfère ne pas me poser de questions, vous voyez,
sur
est-ce que je vis, voilà, moi j'aimais bien l'idée de jamais se poser de questions.
Nous sommes souciants, aujourd'hui, il ne l'était pas.
On était insouciants, il y avait une légèreté,
On le disait avec on le disait tout à l'heure.
Il y avait moins de jugement, il n'y avait pas les réseaux sociaux,
il y a 10 ans,
on généralise.
Insouciante pour la journée.
On généralise comme s'il y avait des boomers, enfin un boomer, mais il y a des boomers. Il y a Ghislaine qui nous dit, moi je hurle quand j'entends François de Closet qui nous accuse d'avoir ruiné la France. Ce n'est pas le cas de la majorité. Je suis né en 1952 à Brest, ville détruite par la guerre. Oui. Conditions de logement précaires. Mon bac en 1970, 20% d'une tranche d'âge à l'époque. Mes parents, mes parents ne pouvaient pas me payer des études, donc dont je rêvais. Je me suis battu pour que mes enfants fassent les études qu'ils voulaient. La France d'en bas, je viens de la France d'en bas, mais j'ai une fille médecin. On est la première génération à nous être saignés pour pouvoir payer à nos enfants de belles études.
Oui, mais c'est beau, voilà. En fait, ses enfants ont réussi à devenir médecin. Effectivement, elle a bossé comme une dingue. Mais moi j'en rêve d'un bac à 20% et puis à 95% où les gens sont vraiment orientés, etc.
On l'a compris ce que dit Ghislaine, c'est quand t'as longtemps le discours général.
Ah
les
oui,
boomers,
mais c'est pas que des privilégiés, je suis d'accord.
Non, alors, ça a juste mal à passer.
Alors justement, nous sommes avec François de Closet, dont le livre, bien sûr, fait polémique et dont on parle depuis quelques minutes, essayiste et auteur donc de ce fameux livre, La parenthèse boomer chez Fayard. Merci François de Closet d'être avec nous.
Bonjour.
Ah bah écoutez, c'est un vrai plaisir de vous avoir dans Estelle Midi. Vous êtes conscient quand même que vous avez déchaîné les passions avec votre livre, François?
Mais écoutez, en France, sitôt que l'on cesse de parler sur le mode victimaire, compassionnel, tout le monde souffre, tout le monde est malheureux, ce n'est la responsabilité de personne, etc. Dès qu'on passe sur un monde où simplement vous dites les choses, vous dites quand c'est bien, vous dites quand c'est mal, et vous dites ce qui s'est passé, aussitôt tout le monde se déchaîne. Nous vivons dans un monde du mensonge absolu. Vous comprenez, quand on voit des gens, des Le Pen-Anchon, là, qui disent « Nous allons vous donner des années de retraite en plus, faire la retraite à 60 ans. » Et comme s'ils le donnaient, ça, en réalité, ce qu'il faut entendre, c'est « Nous allons prendre aux actifs, aux plus jeunes, qui sont dans une moins bonne situation que les seniors, nous allons prendre sur eux des cotisations supplémentaires pour les donner à ceux qui pourtant sont dans leur meilleure situation. Donc ils font semblant de faire du social, on prend aux riches pour donner aux pauvres, alors qu'en réalité, ils prennent aux moins bien lotis pour donner aux mieux lotis. C'est ça, on ne veut jamais dire la vérité. La vérité, et dans tous les autres domaines, ce serait la même chose. Et ça ne veut pas dire, quand je parle d'une génération, ça comporte des gens qui ont le même âge, les uns milliardaires, les autres SDF. Et c'est évident, et je le dis, que je sais très bien, par exemple, à l'heure actuelle, on abandonne les vieux seuls chez eux. Il n'y a pas de structure sociale pour les aider, les accompagner, comme on fait dans les pays plus avancés. Mais il y a aussi des gens qui se dévouent corps et âme, soit pour leurs grands-parents, soit pour leurs voisins âgés, évidemment. Donc, il ne faut pas opposer un exemple individuel, très réel, très authentique, à une réalité sociale collective.
Mais François de Closet, c'est quoi le portrait robot du boomer pour vous ?
Mais le portrait robot du boomer, c'est d'abord quelqu'un qui considère que au sommet de tout, ce qui est le plus important, c'est la liberté individuelle. Ici, maintenant, moi, je dois pouvoir faire ce que je veux et vous n'avez pas à m'embêter. C'est d'abord ça, cette idée qui cimente cette génération des boomers. Alors que la génération avant...
Il y a quand même des jeunes boomers aussi. Hein,
vous devez vous occuper de la France.
Pas mal.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, non mais après, tous les égoïstes ne sont pas boomers. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais c'est égoïste, j'aime pas le nom qui semble avoir une connotation morale. Moi, je constate les faits. Les Français, dans la génération des 30 glorieuses, entre 1950, si vous voulez, et 1970, ils étaient mis par le général de Gaulle, qui était là, au service de la France. Vous êtes libre, oui, mais au service de la France. Et il y a eu la révolution de la fin des années 70, et les Français se sont réappropriés leur volonté, et ont dit « Non, nous sommes libres, et nous faisons ce que nous voulons, et nous nous servons de la France, mais nous n'avons pas à servir la France. » C'est ça qui a tout changé. À partir de là, ça a changé les comportements, et les événements ne sont plus les mêmes, et la France est entrée dans cette période de déclin. Voilà. Et tout le monde a participé à ça. C'est l'ère du temps, comme on dit. C'est pas une génération.
François, juste une question, Péricot. La phrase célèbre de Macron, il n'y a qu'à traverser la rue. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'à l'époque, on acceptait de traverser la rue d'instinct et qu'aujourd'hui, on refuse de la traverser parce qu'on estime qu'on n'en est pas digne ?
Mais moi, je ne pense pas du tout que... pardon, Péricot.
On va aller chercher du boulot.
Il y a... Ça, c'est 50 ans qu'en France, il y a des emplois qui, des demandes d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Ça fait 50 ans qu'on refuse d'en parler.
Quand oui, mais c'est pas parle, les emplois les plus sympathiques, vous voyez, François de Closet.
Non, mais quand vous voulez, moi j'ai voulu faire des émissions sur la pénurie d'emplois en période de grand chômage, tout de même. Et le ministre m'a répondu, « Ah non, monsieur, c'est un fantasme patronal. » Eh bien oui, il y avait, on ne formait pas des gens pour les emplois disponibles. Et d'autre part, de plus en plus, on répétait que non, travailler c'est idiot, Et on arrive maintenant à une situation dans laquelle, malgré le chômage, la pénurie d'emplois est le plus gros frein à la croissance. Parce que les jeunes, la jeune génération fondée sur cette liberté du moi d'abord, ce qui compte c'est moi, est une génération qui finalement veut bien le travail mais uniquement aux heures de bureau. Mais de notre côté, en tant que client, elle veut
non,
le
ils veulent aussi
des heures de bureau. C'est tout, ça peut pas marcher.
Oui, mais ils veulent aussi être heureux en dehors du travail, ce qui n'était pas le cas de nos parents. Vous avez pas mal de messages, Rémi Barré.
Oui, bon, il y a des boomers qui nous écoutent, comme Christiane qui nous écrit sur Direct Studio. Moi, je ne suis pas d'accord pour dresser les anciens contre les jeunes. À mon époque, nous avons commencé à travailler à 16 ans, 10 heures par jour, sans aide, ou en tout cas pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on nous parle justement de pénurie, de jeunes qui ne veulent plus travailler. Arrêtez de nous dresser les uns contre les autres. Bon, c'est ce que nous dit Christiane.
Merci en tout cas François de Clauzel d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Je rappelle le titre de votre livre qui est passionnant, ça s'appelle La parenthèse boomer et c'est chez Fayard. Alors on vous a quand même posé la question sur Twitter. Les boomers ont-ils ruiné la France, Rémi? Est-ce que c'est des vieux ou des jeunes qui...
C'est oui à 77%.
Ouh là là.
RMC.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et le débat du jour dans Estelle Midi, il est autour de l'enquête du journaliste Victor Castanet. Dans un livre intitulé Les Fossoyeurs, il dénonce les traitements des personnes âgées dans les EHPAD et c'est absolument glaçant. Rémi Barré, il sera avec nous dans un instant.
Des personnes âgées rationnées, abandonnées dans leurs excréments, ou laissées sans soins pendant des jours. Voilà ce que décrit cette enquête avec au cœur du scandale une entreprise Orpea, un mastodonte des maisons de retraite médicalisées. 65 000 collaborateurs dans 1100 établissements à travers la planète, 220 EHPAD rien qu'en France. Une société où, selon l'auteur, seul compte la rentabilité. Il faut que ça crache. Ce serait l'expression favorite des réunions de direction, toujours selon ce journaliste. Pour cela, on rogne surtout les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents qui seraient rationnés. Une auxiliaire de vie témoigne dans ce livre, elle dit devoir se battre pour obtenir des protections pour les résidents. C'est 3 couches par jour, pas une de plus, que le pensionnaire soit malade ou pas, alors même que les séjours sont facturés au prix fort, plusieurs milliers d'euros chaque mois. Alors il faut savoir quand même, il faut le dire, que la direction d'Orpea a immédiatement démenti ces informations, parlant de mensonges. D'ailleurs, elle va attaquer en justice, en tout cas ses avocats sont alertés, peine perdue en tout cas, puisqu'hier le titre du groupe français gestionnaire de cliniques privées et de maisons de retraite a perdu plus de 16% avant que sa cotation en bourse ne soit suspendue à la demande de l'entreprise. Et dans la foulée, d'autres groupes privés, gérants de maisons de retraite, comme Korian par exemple, ont également dévissé en bourse.
Alors, on se demandera dans un instant si on doit tout faire pour garder nos anciens à la maison et ne pas les envoyer en EHPAD, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on réagisse justement sur cette enquête. Daniel Riolo, est-ce que c'est un pur scandale ce qu'on vient d'entendre?
Ah bah, vous n'allez pas trouver des gens qui vont vous dire que ça ne l'est pas. Et effectivement, avant de répondre à la question du débat que tu voulais poser aujourd'hui, oui, à la lecture de ce livre-là, j'imagine que derrière, bon, eux décident de porter plainte immédiatement en réaction. J'espère, moi, que ça va occasionner une enquête et qu'on va aller regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements. Parce que la première des réponses, avant de se demander est-ce qu'il faut garder les vieux à la maison, ça, après, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, il y a un facteur culturel aussi là-dedans, un facteur de moyens. Il y a beaucoup de choses, mais c'est déjà la première des réponses. C'est faire en sorte que les établissements qui sont payés pour le faire accueille bien comme il
et
faut.
Et grassement payé, ça coûte une fortune.
Ça coûte cher.
Oui, avec des trucs miteux, quoi.
À partir du moment que ça coûte cher, pas cher, à partir du moment où quelqu'un paye pour un service, il faut que ce service soit rendu convenablement et qu'on ne profite pas de la faiblesse physique de ces vieux pour les maltraiter. Donc déjà, qu'on apporte une solution à ce problème-là et que s'ils doivent être sanctionnés, comment s'appelle cette boîte, Orpea, elle le soit. Et puis après, on posera la question effectivement de mettre ou non en EHPAD. Ça, c'est une réponse que chaque personne, nous, notre génération, plus tard, on va devoir se... Tout le monde se pose cette question, en fait, sur qu'est-ce qu'on doit faire avec nos anciens.
Mais ce qui est fou, quand même, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, quand même, vous mettez vos parents en EHPAD, déjà, c'est un crève-cœur. C'est difficile de mettre ses parents en EHPAD. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de ça. Vous payez des milliers d'euros pour ça, donc vous estimez quand même qu'a priori, vos parents vont être bien traités. Et finalement, j'imagine que quand vous y allez, c'est sourire et compagnie, mais que finalement, vous apprenez que vos parents sont maltraités. Mais enfin, c'est quand même terrible.
Il doit y en avoir où ça se passe bien, j'imagine, quoi. Des résidences seniors où ça se passe bien.
Là, franchement, je sais plus, quoi.
C'est pas la première fois que ce problème est soulevé. Il y a déjà des enquêtes où où ça avait été relevé. D'abord, il faut savoir que le business du grand âge, c'est un business très, très lucratif.
Absolument.
Voilà, bien d'accord, qui ramène beaucoup d'argent. Donc à ce prix-là, il pourrait effectivement donner un minimum de soins corrects aux personnes âgées. Avant d'aller plus loin, je voudrais rendre hommage au confrère qui a fait cette enquête pendant environ 2 ans.
Qui sera avec nous, Victor Castanet.
Environ 2 ans. Et qui, par son travail, donc on rend hommage au travail long des journalistes, à une époque où on parle beaucoup de chaînes info qui survolent, des réseaux sociaux, des fake news. Je voudrais rendre hommage à un travail long d'un journaliste dont le résultat est de faire chuter en bourse le cours d'entreprises sont ultra puissantes.
Donc ça me rend
fier pour mon métier et je lui dis un grand bravo. Et je dis aussi aux gens qui nous écoutent, achetez ce livre. C'est pas un sujet facile, mais achetez-le parce que ça concerne vos familles, ça vous concernera peut-être. Achetez-le parce que si vous vous contentez de le lire dans les magazines, des résumés, des bonnes pages, et bien vous n'aidez pas ce garçon qui en plus risque d'être attaqué parce qu'évidemment ces boîtes, elles ont des gros avocats, beaucoup d'argent, et maintenant elles vont dépêcher toute l'artillerie lourde pour tenter de faire croire qu'il a menti, etc.
Il est chez Fayard, donc j'imagine qu'il a
bien entendu, oui, en fait, c'est qu'à quel point les maisons d'édition, elles peuvent être, elles sont pas forcément tout le temps très riches, et voilà.
Justement, on est avec Victor Castanet, journaliste qui vient de sortir les Fossoyeurs aux éditions Fayard, 3 ans d'enquête sur le business des maisons de retraite privées. Merci beaucoup, Victor, d'être avec nous aujourd'hui dans Estelle Midi.
Merci pour votre invitation.
Sur RMC, et c'est vrai qu'on a été très choqués en lisant les bonnes feuilles de votre enquête. Qu'est-ce qui vous a le plus scandalisé, vous, Victor, tout au long de ces 3 ans d'enquête ?
Ce qui m'a le plus choqué, si vous voulez, c'est le système à l'origine de la maltraitance. Moi, j'ai été au départ alerté par des soignants, des salariés d'Orpea, qui m'ont raconté des dysfonctionnements importants, des carences en personnel, des rationnements, des protections, des dispositifs de santé, dans un établissement luxueux, l'un des plus chers de France, situé à Neuilly.
D'accord.
Et mon enquête, elle part de là. Et ensuite, suite à ces alertes, je suis allé voir d'autres établissements du groupe partout en France. Mmh. Et j'ai rencontré, on m'a rapporté les mêmes dysfonctionnements. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre, grâce à ces témoignages et à des gens de plus en plus, à des postes de plus importants dans l'entreprise, que ces défaillances, ces dysfonctionnements, elles trouvaient leur origine dans un système mis en place au plus haut niveau du groupe, par les dirigeants du groupe, qui était un système à la fois financier, opérationnel et managérial, qui était un système basé sur la réduction des coûts. Et donc c'est ce système-là, financier, qui a des conséquences directes et destructrices à la fois sur la qualité de la prise en charge et sur les conditions de travail des salariés. Donc si vous voulez, ce qui m'a le plus scandalisé, c'est que les soignants se retrouvent à être maltraitants à cause de ce système.
Oui, c'est ce que vient de nous dire Sylvain, d'ailleurs. Mais rappelez-nous le coût d'un EHPAD, parce que c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas 200 euros par mois. C'est très cher d'envoyer un parent en EHPAD.
C'est très cher. Et alors moi, j'ai suivi des établissements Orpea dans lesquels les tarifs étaient d'environ 3 000 à 4 000 euros. Mais j'ai aussi à Bordesen, notamment à Neuilly, les tarifs étaient entre 7 et 15 000 euros.
C'est énorme.
Par mois.
Gigantesque.
C'est-à-dire, même dans les établissements un peu haut de gamme du groupe, vous avez noté les dysfonctionnements. Une question, Victor, pour être sûr que tout le monde comprenne, parce qu'évidemment, ceux qui ont des parents en EHPAD... Vous, votre enquête, c'est sur le groupe Orpea, c'est pas tous les EHPAD.
Alors ça, c'est une chose importante à dire, parce que justement, je fais pas de l'EHPAD bashing, c'est-à-dire, je ne considère pas et je ne dis pas que tous les groupes privés font du mauvais travail. Il y a beaucoup de groupes privés qui font du très bon travail, et il y a des dizaines de milliers de personnels soignants, d'auxiliaires de vie, d'aides-soignants qui, au quotidien, consacrent leur vie aux personnes âgées et à la bientraitance. Donc moi, je mets pas tout le monde dans le même panier, je fais très attention à ça. En revanche, clairement, ces dérives qu'on m'a rapportées, elles concernent le leader mondial des EHPAD, et elles sont d'autant plus importantes qu'elles racontent les défaillances générales du système de santé français. C'est-à-dire, ces dérives, ce groupe est le théâtre de telles dérives parce que le système français, et notamment le système de contrôle, est défaillant.
Voilà. C'est-à-dire le système de contrôle, je ne comprends pas.
Eh ben qu'il n'y a pas assez de contrôle, on ne sait pas en fait. Ils font ce qu'ils veulent.
Ah, d'inspection, d'accord.
Exactement.
S'ils peuvent se permettre de faire ça, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés.
C'est important
de préciser, c'est un sujet qui est tellement sensible, j'ai envie de tout comprendre. Quoi.
Victor, est-ce que vous pensez justement que votre enquête va susciter un questionnement un petit peu partout en France? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire de nos parents quand ils ne seront plus en état, on va dire, de se gérer tout seul? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez susciter peut-être un vrai débat national avec cette enquête?
C'est ce que j'espère, et c'est ce que les 250 personnes qui ont témoigné dans le livre ont espéré en participant à cette très longue enquête. Au-delà de la crise financière qui touche le groupe depuis hier, notre objectif, l'objectif de tous les gens qui ont témoigné dans ce livre, c'est effectivement de créer un électrochoc. Parce que ce système-là, il crée des situations de maltraitance tous les jours. Et donc, il y a urgence à réformer, à la fois sur la question des contrôles, mais aussi sur les modes de financement, parce qu'on donne beaucoup de dotations publiques à ces grands groupes. Et il y a même des députés qui reconnaissent aujourd'hui, que j'ai rencontrés, qui reconnaissent que ces dotations publiques, elles ne sont pas corrélées à des critères de qualité. Aujourd'hui, c'est très difficile en France de fixer des critères de qualité. Il n'y en a pas. Donc, les inspecteurs ont beaucoup de mal à contrôler. Ouais. Et oui, il y a, et ça, j'ai des gens en interne à très haut niveau qui me le racontent et qui le racontent en leur nom. Il y a une vraie défaillance au niveau des contrôles parce que il y a des dotations publiques qui sont allouées chaque année. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, il y a des contrôles.
Il faut contrôler.
De temps en temps pour vérifier que cet argent public est bien utilisé. Mmh. Sauf que ces contrôles, d'après les témoignages que j'ai obtenus, sont très, très rares. Et la plupart du temps, les groupes sont prévenus à l'avance, c'est-à-dire parfois 3 semaines, 1 mois à l'avance. Donc vous avez tout le loisir de prendre les mesures de correction avant que les inspecteurs n'arrivent.
Alors restez bien avec nous, Victor, hein, parce qu'on va se poser aussi cette question dans Estelle Midi. Est-ce que finalement l'alternative ce ne serait pas d'essayer à tout prix de garder nos anciens, nos aînés à la maison? Et on a Shérif qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Shérif.
Bonjour à tous.
Et vous, Shérif, eh bien en fait, vous avez accueilli votre maman de 89 ans chez vous.
Tout à fait. Oui, bah ce qui me paraissait légitime et normal. Elle s'occupait de moi encore maintenant. elle est toujours présente, même j'ai 53 ans. Et j'envisageais pas du tout d'envoyer ma mère dans un hospice finir ses jours, parce que pour moi, j'estime que c'est un mouroir. Et c'est vrai que j'ai l'exemple de la grand-mère de mon épouse qui est décédée, qui vivait dans un beau château où il y avait un super parc, mais elle vivait dans 20 mètres carrés et en fait, elle quittait pas son lit. Et en l'espace de moins d'un an, elle est décédée parce que elle n'avait plus de vie. Donc j'envisageais pas en tout cas ça pour ma maman. J'ai la chance aussi, le fait que ma mère a toute sa tête, donc elle n'a pas de maladie comme Alzheimer qui me permet, en fait, quand je me déplace, de pouvoir la laisser tranquillement à la maison. Il y a des infirmières qui viennent la voir 3 fois par jour, il y a une personne qui vient la laver régulièrement.
Donc c'est une organisation quand même, Shérif. Voilà, c'est pas anodin, c'est ça que je veux dire.
Ah non, c'est pas anodin, il y a du boulot, mais ce qui me paraît logique, et je pense que j'ai donné plus de boulot à ma mère, excusez-moi, ça me démotive quand je parle de ça.
Oui, effectivement.
Mais j'ai donné beaucoup plus de boulot à ma mère qu'elle m'en donne aujourd'hui, quoi. Et puis ça me paraît légitime.
Oui, légitime. Et effectivement, on sent toute votre émotion, Shérif, parce qu'effectivement, vous occupez de votre maman et bravo à vous, parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas le faire et puis tout le monde n'a pas le temps de le faire. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment très, très beau et je comprends parfaitement votre émotion. Shérif, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui,
parce qu'il y a beaucoup de témoignages.
Oui, Rémi Barré. Je vais être très terre à terre, mais c'est vrai qu'on parlait de la capacité de le faire. Donc, on a vu que Shérif avait réussi à organiser avec des soignants autour de sa mère. Mais financièrement, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est lourd aussi, j'imagine, financièrement?
Financièrement, en fait, ma mère aurait même les moyens, avec sa retraite, de pouvoir payer un EHPAD, pas un EHPAD à 15 000 euros, mais un EHPAD qui tourne autour des 3 000, alors elle a les moyens de le faire. Donc, naturellement, elle participe aussi au quotidien. Mais c'est surtout que, par exemple, la personne qui vient la laver régulièrement me disait qu'elle travaillait en EHPAD avant. Et pour confirmer ce que disait Sylvain, effectivement, auparavant, elle me disait qu'ils avaient 10 minutes par personne. Mmh. Et qu'effectivement, si la personne avait fait caca après les avoir lavés, ils revenaient à la prochaine session. Ouais. Parce que, naturellement, ils n'avaient pas le temps. Et puis, pour contrôler tout ça, j'écoutais Victor qui disait que c'est difficile de contrôler ces gens-là. Il suffit de faire un rapport entre le nombre de personnel qui s'occupe sur les plannings des personnes et le nombre de personnes qui sont en EHPAD, on verrait le temps qui est attribué à chaque personne. Et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'envisageais pas d'envoyer ma mère dans un EHPAD. Si maintenant il m'arrivait quelque chose et que j'y suis obligé, peut-être que j'aurais pas le choix, mais aujourd'hui, je peux me permettre de le faire. Et ça me paraît naturel. Et je pense et j'estime que toutes les personnes qui devraient pouvoir le faire devraient le faire, quoi. Parce que ça sera un jour, ça sera nous.
Exactement. Mais merci beaucoup, Shérif, pour ce témoignage, parce que c'était vraiment très, très, très émouvant. Et alors, on est avec Laurence qui nous appelle de la Sarthe. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Et oui. Laurence, vous vouliez intervenir sur notre débat sur les EHPAD.
Oui, parce qu'en fait, mon père, justement, enfin, on n'a pas voulu le mettre en EHPAD. Il est mort l'été dernier. Donc, en fait, nous, on a tout fait pour le garder à la maison. Parce que pour nous, c'était le principal, et surtout pour lui, parce que voilà. Et en fait, alors, on nous parle des EHPAD, effectivement, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises qui sont, alors, d'aide à domicile, alors qui sont, je sais pas si on peut dire privées, publiques. Donc, on va dire qu'on paye, mais je peux vous dire qu'on a eu des cas, des personnes qui sont venues, mais je me demandais ce qu'elles faisaient là, quoi. Parce que j'ai l'impression, alors, on nous parle des EHPAD, effectivement, il y a des problèmes. Mais dans les sociétés qui viennent à domicile, je peux vous dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un, il va vendre du poisson le jour d'avant, ouais, il peut s'occuper d'une personne âgée. Moi, j'ai eu deux personnes qui sont venues s'occuper de mon père, mais c'était moi qui m'en occupais, parce que c'était une honte. C'était une honte.
Et vous l'avez dit à la société, justement,
oui,
qui les employait?
Oui, et puis alors, je peux vous dire que... Alors, c'est pour ça que je... Comment dire, je veux pas. C'est pour ça que je voulais pas vraiment. Oui, je l'ai dit, mais en plus, on a eu un problème avec ces sociétés parce qu'ils nous ont fait payer une somme affolante. Ma sœur qui s'occupait de tous les papiers a appelé le conseil régional parce que vous savez que c'est aussi les conseils. Enfin, je sais pas, c'est le conseil régional.
Il y a des subventions.
Voilà. Ils prennent une partie.
Mais ils ont fait quoi concrètement?
Ils voulaient prendre plus. Et donc, quand ma sœur a appelé, ils ont dit donc ils ont réduit le prix en fait. Mais c'est pour ça on parle des EHPAD, mais il faut dire aussi que les gens qui veulent garder leur personne à domicile, elles sont pas mieux aidées.
Vous arrivez quoi concrètement, Laurence?
Eh ben moi c'est simple, c'est que les derniers moments de mon père, c'était moi qui m'en occupais parce que les personnes qui venaient, elles étaient brutes. Enfin c'était, j'avais l'impression, et en plus ça me faisait la morale. C'était moi qui m'en occupais pas bien. Je peux vous dire que j'ai failli grimper au rideau, mais plus d'une fois. En plus, une fois, une des personnes est venue, elle nous a dit « Ah, oh, vous êtes spéciaux ?» Bah, excusez-moi. Oui, on est spéciaux. Hein, bah, excusez-moi. Enfin, c'est pour ça, parce qu'on parle des EHPAD, mais il faut aussi parler des gens qui veulent les garder à domicile. C'est pas mieux, quoi.
Mais il faut tomber sur les bonnes personnes, quoi. C'est ça, en fait.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire que... Alors, moi, je voulais pas le mettre en EHPAD. Alors, il peut y avoir des EHPAD très bien. Comme il peut y avoir des gens qui viennent à domicile très bien, mais le problème, c'est que quand vous êtes vraiment dans le truc, c'est là que vous rendez compte que la France, mais elle est en dessous de tout, quoi. Parce qu'on se dit, on paye des impôts, on fait on fait des machins. Alors, on nous dit tout, hein, les handicapés, on s'en occupe, les personnes âgées, on s'en occupe, mais quand vous êtes vraiment dans la vraie vie, je peux vous dire que vous pleurez, hein, parce que là, je vous retiens, parce que je peux vous dire qu'une chose, que le jour où mon père il est mort, j'ai appelé les pompiers m'ont dit, on le réanime, je leur ai dit non, parce que de toute façon, je voulais pas qu'il aille à l'hôpital sous intubation. Hein.
Bien sûr.
Mais je me suis dit, enfin, il a du repos, quoi, parce que je m'en suis même voulu, je me suis dit, mais j'ai rien fait pour lui, quoi, enfin... J'ai pas pu m'en occuper comme je voulais. J'ai voulu payer des gens pour qu'ils nous aident. Je me dis que la France, je sais pas dans quel pays on est. Enfin, excusez-moi, je pleure parce que...
Non, mais je comprends, Laurence. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'effectivement, la fin, c'est... Enfin, à un moment, il va falloir avoir un débat là-dessus parce que c'est pas normal de laisser des gens mourir dans l'indignité. Et parce que voilà, on entend le témoignage de Laurence, on a entendu le témoignage précédent et on se dit qu'il y a une énorme faillite parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est aussi nos impôts, on paye pour ça.
Il y a la détresse des personnes en EHPAD, il y a la détresse, regardez, les accompagnants, des proches qui sont terribles dans une douleur épouvantable.
Et est-ce que la détresse, elle vient de l'impréparation du personnel, pas assez formé, qui finalement exerce...
Il y a un manque de personnel énorme.
Exerce un métier qui est assez difficile.
Très dur.
Mal payé. Il y a une différence entre l'enfant qui voit vieillir, presque mourir son parent, et la personne pour qui c'est pas si important que ça, elle est dans un rapport un peu impersonnel. Ce rapport-là, c'est-à-dire qu'il faut rajouter une dose d'humanité assez importante à une profession. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, est-ce qu'il faut parler de la préparation des gens qui exercent le métier? Enfin, c'est un dossier qui est extrêmement sensible,
En tout cas, c'est un débat extrêmement difficile. Et merci beaucoup à Victor Castanet d'avoir été avec nous sur RMC. Je vous rappelle le titre de son enquête sur les EHPAD. Ça s'appelle Les Fossoyeurs. C'est aux éditions Fayard. Et vous allez beaucoup en entendre parler dans les jours prochains. Et puis, merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés sur ce sujet. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il garder nos anciens à la maison, Rémi?
C'est oui à 65%.
Ah, mais on l'a bien compris, effectivement, c'est pas non plus toujours.
J'imagine qu'un certain nombre de personnes aimeraient le faire, mais
bien sûr,
faut-il pouvoir le faire.
Mais c'est extrêmement compliqué.
RMC. Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et on va aborder tout de suite le dernier débat dans Estelle Midi autour du chiffre du jour. 58% des PV infligés par des radars automatiques ont sanctionné des excès de vitesse d'au moins de 5 km/h entre 2010 et 2020. Un chiffre, Martin Bourdin, qui relance évidemment le débat sur l'efficacité des radars pour lutter contre l'insécurité routière.
Parce que selon l'association, sanctionner ces petits excès de vitesse ne sert finalement car enflouer les caisses de l'État, un excès de vitesse de moins de 20 km/h, c'est une amende forfaitaire entre 65 et 135 euros, selon qu'on se trouve en agglomération ou non, et un point en moins sur le permis. Voilà ce que vous devrez payer si vous dépassez la vitesse autorisée, même de 2 ou 3 km/h, même de 1 km/h. Or, selon 40 millions d'automobilistes, ces petits excès de vitesse représentent une dangerosité moindre et ils sont sanctionnés plus sévèrement que dans n'importe quel autre pays européen, sans que les effets ne se fassent forcément sentir sur la mortalité routière, qui n'a plus diminué de manière significative depuis 2013, rappelle l'association. Reste que la vitesse reste l'une des principales causes d'accidents de la route en France. Elle est à l'origine de près d'un accident sur 3 en France. Un excès de vitesse augmente également le risque d'accident de 4%.
Alors, faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse? On vous attend bien sûr au standard, au 32-16. Et je vais commencer avec vous, Daniel Riolo.
Oui.
Ah oui.
Moi, c'est carré, là. Je pense que, effectivement, les amendes pour ce genre de petit excès de vitesse, je les assimile très souvent à du racket pour, comme a dit Martin, renflouer les caisses de l'État. Et j'aimerais que. Il y a effectivement dans cet espace des 5 km/h, une règle, je sais pas comment on pourrait faire ça, mais
il y a déjà une marge technique, hein. C'est-à-dire quand on vous condamne pour 1 km/h de trop, c'est 6 km/h de trop, hein, déjà. Eh ben oui.
Les petits excès, ça va.
Le petit excès, c'est 5 km/h. Souvent, tu te retrouves à payer une amende parce que le radar a été mis dans une descente où au lieu de 50, tu passes à 52. Et donc, clairement, c'est fait exprès pour que de toute façon, à cet endroit-là, il soit impossible de passer à 50. J'assimile ça à du racket, effectivement.
Mais on est d'accord qu'il y a quand même un panneau 50 qui te montre que tu n'as pas le droit d'aller
très bien
à
50. 8000 panneaux. Très souvent, tu ne peux pas. Tu descends et bim, tu te fais choper. Enfin, j'imagine qu'on va avoir des gens très compétents pour parler de ce sujet dans 2 minutes et ils te diront de quelle façon c'est structuré, et c'est structuré pour que tu te fasses choper et qu'effectivement tu payes l'amende et que ce soit du racket.
Mais dans ces cas-là, c'est-à-dire que pour un 50 km/h, donc il y aura des panneaux 55, quoi, du coup.
Non. Justement, que le panneau serve à t'alerter pour que tu fasses gaffe, ok. Mais si tu te fais choper à 52 au lieu de 50, qu'on te mette pas l'amende. Voilà.
On envoie un petit message, genre Daniel, la prochaine fois, si tu peux faire gaffe.
Exactement.
Cool.
On enlève
exactement.
Le point ou pas, Daniel?
Pardon?
On enlève le point quand même ou pas?
Non plus.
Ah, d'accord.
Pas pour le petit excès de vitesse.
On fait plus rien, donc on laisse faire.
Pour le petit excès de vitesse de 5 km/h.
Géométrie variable quand même.
Mais quel rapport? Mais quel rapport? Si tu provoques un accident, évidemment que tu payes. Là, tu ne vas pas comparer une agression physique à ça. Mais tu ne vas pas comparer une agression physique à 2 km/h de trop sous un tunnel quand tu descends.
Vous, Daniel, qui est un défenseur de la loi, du respect de la loi,
et l'autorité, on s'en fout. On perd l'autorité dans ce pays, t'as dit tout à l'heure.
Non, mais là, vous mélangez.
Mais moi, je suis pas. La loi, la règle, c'est la règle. À un moment donné, faut mettre une barrière. Et après.
Mais toi, t'es carrément contre la voiture, toi.
Daniel, taisez-vous. Mais dis donc. Voilà. On ne se connaît pas, Daniel. Tu ne sais pas ce que je pense de la voiture. Et après, moi, que certaines amendes servent à remplir les caisses de l'État et que ça soit des tiroirs caisses, franchement, ça ne me choque absolument pas. C'est clair que dans certains cas, c'est exactement ça et qu'on met des panneaux là où on sait qu'on va encaisser des amendes. Et alors? Et alors, quoi? Je vois pas où est le problème, en fait. Une fois qu'on a dit ça, je vois pas en quoi c'est plus choquant, ça, qu'autre chose. On récupère de l'argent sur des amendes, ouais.
Oui, alors, effectivement, ce qui est choquant, c'est comme Daniel le dit, quand vous avez un radar qui est clairement, en bas d'une descente, ou franchement, pour être à 50 km/h, faut avoir vraiment le pied arc-bouté sur le frein.
Bah, tu le sais, alors,
tu conduis ou pas?
Bien sûr.
T'as vraiment une voiture?
Oui. Non, j'ai pas de voiture, bien sûr. Mais j'habite à Paris, Daniel, enfin.
Ah, donc t'as pas de voiture.
Alors,
c'est un sujet qui t'échappe.
Julien Damon, est-ce que ça, si on commence à supprimer les petits excès de vitesse, c'est la porte ouverte à tout et on supprime tous les excès de vitesse, en fait, du coup.
Ah bah oui.
Ah d'accord.
Ça me semble absolument logique.
Ah d'accord.
Et donc, il ne faut pas le faire. Là, je ne serais pas d'accord avec Daniel. Non, moi, la vie...
Tu penses quoi, Julien?
Ah, parce que je pense c'est que la loi est dure, mais c'est la loi, en l'espèce, et que Estelle a très bien dit cette affaire, si tu supprimes ou si tu mets une marge de tolérance plus élevée de 5 km/h, autant dire que la limitation de vitesse
est
à 55.
Donc, on est tous contre Daniel.
Là, en l'espèce, je ne suis pas d'accord avec mon ami Daniel, sur lequel, normalement, nous tombons souvent d'accord lorsqu'il s'agit de ces sujets de tolérance zéro. Je suis pour la tolérance zéro aussi sur les affaires automobiles. D'ailleurs, assez généralement, les petites infractions sont les plus copieuses, ce sont les plus volumineuses, et c'est celles qui, d'ailleurs, rapportent le plus de sous au pouvoir public,
60%.
Les petites amendes. Donc c'est très bien, mais je pense aussi que...
Mais c'est quand même du racket ou pas ?
Mais pas du tout. Enfin, moi, je pense que c'est pas du tout le terme qu'il faut employer. Si on met à tel ou tel endroit le panneau, c'est d'abord pour que les gens ralentissent à cet endroit. Et là, je vois Daniel qui pourrait sauter en l'air, il ne le fait pas, je suis presque déçu, pour dire que pas du tout, c'est du racket.
Chasseret
nous donnera peut-être sa leçon. Et ça, là-dessus, il y a un sujet assez général, c'est que je pense que les incivilités conduisent à la délinquance. Et c'est vrai aussi des inconduites.
Oh là 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 là.
Mais oui, c'est très simple. Un petit
sur n'importe quel autre thème, je dirais oui, Daniel.
Il n'y a jamais un grand excès de vitesse qui ne commence pas par un petit excès de vitesse.
Ce sont deux à l'intérieur de toi, quand même.
Pour passer à 150 km/h, il faut d'abord passer à 55 km/h, 60 km/h, etc., etc. Donc je pense que moi, qu'il faut être pas moins ferme avec les petites infractions, mais beaucoup plus ferme encore avec les grandes infractions. Et j'ajoute un truc, je pense que ceci ne doit pas concerner uniquement les voitures. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur Chasseret. Je ne supporte pas les trottinettes, les vélos débridés électriques qui vont à 40-50 à l'heure quand les voitures...
Vous avez déjà vu un vélo électrique à la 50 km/h?
Ah oui, là c'est parisien.
Mais quand vous voyez... Vous en bas d'une descente?
Non, à Paris, pas du tout. Vous allez n'importe où dans Paris.
Je sens que c'est de la trottinette.
Trottinette et vélos électriques qui vont à 40-50 km/h dans Paris, c'est pas tous les vélos, je dis pas ça, mais il y en a certains qui le font. Et qui, moi, je suis avec mon Vélib. À 25 km/h, c'est bridé. Les gens me doublent, ils vont deux fois plus vite que moi.
C'est déjà beaucoup pour un Vélib, hein.
Non, Vélib, c'est bridé à 25, on peut pas aller plus vite quand on est avec le Vélib électrique. Enfin, passons le truc. Okay. Mais je rappelle que la limitation de vitesse dans Paris est maintenant majoritairement, à 30. Ils vont plus vite. Et j'en ai marre qu'on embête les voitures.
Et arrête, on peut pas aller à plus de 30 dans Paris, voyons.
Non, mais si, sur les quais,
c'est bouché partout.
En vélo et en trottinette, tu peux tout à fait. Donc, il faut
y aller. À vélo, ils prennent l'essence interdite à l'envers.
Nous sommes avec
pas besoin de se la faire taper, je veux dire.
Qui est chauffeur de taxi en Seine-et-Marne. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe, vous allez bien?
Bien et vous Mohamed?
Salut Mohamed.
Oui, ça va, merci, ça va. Bon, écoutez, moi en tant que taxi professionnel, bien sûr, il faut dénoncer un petit peu cet abus concernant, bien sûr, les retraits abusifs de points. Je prends l'exemple, par exemple, moi l'année dernière, j'ai perdu 5 fois un point. 5 fois un point. Et pour des excès de vitesse, mais vraiment, quand vous retenez 56 pour 51, ça fout quand même les boules.
Oui, mais certes, vous étiez à 56. On vous dit 51, mais vous étiez à 56, Mohamed.
Voilà, tout à fait. Et puis, il y a un jour où je suis tombé, on va dire, j'étais fâché à 7h23 et puis 7h32. Franchement, quand vous prenez tout ça en compte. Et moi, sincèrement, je suis plutôt du côté de Daniel. Hein. Daniel, je te rejoins. Hein. C'est de l'abus.
Évidemment, moi, je comprends les Français. Daniel.
Ce qui vous gêne le plus, Mohamed, vous, c'est la perte de points ou c'est l'amende?
C'est la perte de points. L'amende, en l'occurrence, on l'assume. Pas de problème.
D'accord.
Mais la perte de points en tant que taxi, et je parle en général. Attention, je parle en général. Hein. Tout ce qui est professionnel, vous voyez, on est obligé de excusez-moi, hein, on est obligé de faire appel à sa femme pour gratter un point, à son frère.
Mais bien sûr.
À un moment donné.
Évidemment.
Voilà. À un moment donné, c'est clair que 12 points, à la limite, monter à 15 points, parce que je veux dire, de faire un stage de récupération, 4 points à l'année, c'est pas assez. C'est pas assez. En plus, nous, en tant que professionnels,
vous roulez plus, bien sûr.
Voilà. En plus, on fait le stage, on paye. D'accord, certes, on paye, c'est minimum 270 euros la formation sur 2 jours. On perd quand même 2 jours de travail. Et à un moment donné, on a trop de pression, sincèrement.
Vous voyez bien que c'est totalement injuste pour quelqu'un comme Mohamed.
Ah,
c'est totalement injuste.
D'accord. Mais est-ce que Mohamed, est-ce que vous trouvez qu'il faudrait, je veux dire, faire un barème de sanctions plus élevé? Parce que c'est-à-dire que quand effectivement vous faites un excès de vitesse et vous allez à 52 plutôt que 50, vous allez payer la même chose que si vous aviez roulé à 68. Donc ça c'est normal pour vous ou pas?
Bah écoutez, c'est normal dans le sens où si on fait un excès de vitesse, un grand excès de vitesse, ok, on assume, on paye. Maintenant, moi je veux dire, par rapport à l'amende de l'excès de vitesse à 52, 50 ou 53 quand on est flashé, voilà, on paye l'amende. Mais moi ce que je dis, et j'ai réitéré encore nous trouver des solutions, parce que là on est pris à la gorge, on en a ras-le-bol. Là, je parle au nom de tous les chauffeurs professionnels, les taxis, en l'occurrence, les commerciaux. Voilà, essayez de nous trouver une solution, parce que il y a un moment donné, franchement, on dit ras-le-bol. On en a marre. Sincèrement, on en a marre.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Mohamed pour ce coup de gueule. Merci d'avoir été avec nous sur RMC. Alors c'est très intéressant parce qu'on est avec Taïeb qui nous appelle de Bordeaux et qui est technicien d'installation des radars. Bonjour Taïeb.
Oui, bonjour Estelle.
Ah, lui, il
bonjour,
le sait. L'équipe.
Alors, Taïeb, c'est un peu de votre faute, hein, ça, là, tous ces petits excès de vitesse, quoi. C'est pas lui qui encaisse, hein.
C'est un peu de ma faute, oui. Et ça, les gens me le font remarquer tous les jours, hein, je pense.
Ah mince.
Avec des klaxons, des insultes.
Ah, bon ah mince. Ah non, mais c'était une petite vanne mal placée.
Oui, non, non, mais vous inquiétez pas, je suis habitué. Non, pas habitué.
Voilà. Mais. Taïeb, oui. Vous, justement, on est bien d'accord que quand un radar flash et qu'on reçoit chez nous le petit papier 51, ça veut dire qu'on était à beaucoup plus que ça, on est d'accord?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que moi, quand je reçois mes paramètres juridiques du centre d'infraction de Rennes, quand on rentre les paramètres juridiques, on prend en compte la marge constructeur. C'est-à-dire que quand vous êtes à 80... kilomètre heure, marge constructeur, vous êtes beaucoup moins. Alors, si vous faites flasher par contre à plus de 80, ça veut dire que vous étiez au-dessus. Nous, si vous voulez, dans une zone à 80, on rajoute 6 kilomètres heure de plus.
Ça veut dire que par exemple, quand il y a un panneau 80, moi je peux mettre sur mon régulateur de vitesse 85 et je suis sûr de ne pas être flashé.
Non. Voilà, exactement.
Non. Enfin, s'il faut avoir fait des études en ingénierie pour savoir comment lire un compteur, excusez-moi, ou savoir comment le constructeur a fabriqué son compteur, pardonnez-moi, ça devient très très compliqué.
Non, ça veut dire que ça veut dire que déjà t'as fraudé. C'est-à-dire que
Oui, mais si on le sait pas tout ça.
C'est pour ça que Taïeb est là, il oublie.
Daniel, c'est-à-dire que si moi par exemple, quand je roule, alors je fais beaucoup de route moi, regardez, alors j'ai tous mes points, bon, je sais les radars où ils sont, donc vous allez me dire, c'est facile, mais par exemple sur mon Waze, c'est-à-dire sur mon véhicule, quand je suis à 80, sur Waze, je suis à 75.
C'est ça, il y a une marge. En fait, quand tu fraudes,
c'est encore pire, du coup.
Voilà. T'es jamais à 81.
En gros, il faut être bon en maths, maintenant, pour ne pas chercher le radar.
Ce qui veut dire, Taïeb,
puisqu'on ne sait pas.
Mais on vient de le dire.
Ce qui veut dire, Taïeb, que quand on est flashé et qu'on reçoit une amende, qu'on est flashé à 86, donc vitesse retenue 81, en réalité, on est à 90, 91 km/h.
Ah oui, vous êtes un peu plus, bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis.
Donc on le sait, finalement.
Donc il n'y a pas de petits excès de vitesse, en fait.
Voilà, exactement. Merci. C'est pour ça que je ne suis pas pour retirer les petits excès de vitesse. Parce que moi, je suis rencontré à des situations où je pose des radars, vous savez, à proximité des écoles ou des choses comme ça, ou à un endroit accidentogène, pardon. Et parfois, quand je le pose à côté d'une gerbe de fleurs parce qu'il y a un motard qui s'est tué à cet endroit ou des choses comme ça, ben ça me... Voilà quoi, je me dis que je fais bien de le poser à cet endroit. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur les positionnements des radars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, c'est pas moi qui décide malheureusement où je dois le poser ou pas.
Voilà. Et voilà. Donc là aussi, il y a dans le discours de Taïeb aussi la partie où parfois on le met à des endroits où on sait très bien que ça va renflouer les caisses.
Exactement, mais pas tous les radars.
Pour renflouer les caisses. On le met aux endroits où les gens commettent des infractions.
Non. Il y a les endroits bienvenus et il y a les endroits où c'est fait exprès pour choper des gens.
C'est fait pour que les gens ralentissent.
Alors, merci.
Pour choper des gens, c'est pas pareil.
On va remercier Taïeb d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué toutes ces petites subtilités concernant les radars. Alors, on vous a posé la question, tiens, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse? Est-ce qu'une majorité se détache, Martin?
Oui, une large majorité. 81% de oui, faut arrêter de sanctionner ces petits excès de vitesse.
Encore une fois, je suis totalement en phase avec la France.
Oh, bah ça, c'est sûr. Non, mais là, t'es d'un démago, évidemment. C'est sûr que ça allait être oui.
Ça, c'est sûr, ça vous arrange pas.
Voilà, c'est la fin de ce best-of d'Estelle Midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, midi, 15h, pour d'autres meilleurs moments de l'émission. Tout de suite, le Super Moscato Show sur RMC. Salut à tous.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.